Le Monde en direct.
À 18h24, allô le monde. Hôpitaux paralysés, entreprises dépouillées de leurs données. Voilà des années que le risque cyber s'intensifie. Dernier exemple en date, chez nous, c'était le 18 avril. Les portails des services publics wallons étaient inaccessibles, victimes d'une cyberattaque.
Et quand on parle de cyberattaque, il n'y a pas que les grandes administrations qui sont touchées. Exemple, avec la petite commune de Jemeppe-sur-Sambre, c'était le 15 avril dernier.
C'est régulier, c'est absolument pas étonnant, les pouvoirs locaux sont régulièrement visés par des attaques, des cyberattaques. Tout le monde est exposé en fait. Ce n'est pas forcément le milieu hospitalier ou les grandes villes. Même une toute petite commune peut très bien être la cible d'une cyberattaque assez violente et personne n'est armé actuellement. Oui. Et donc les mesures qu'on prend maintenant au niveau de la région ou d'organisations comme la nôtre sont plutôt d'essayer d'avoir des zones de protection finalement pour essayer d'endiguer ces attaques-là de manière à réduire leur nuisance en fait, de manière à avoir une protection en amont devant l'informatique communale, et ça semble être la piste que pas mal de pays mettent en place avec toute une série de partenaires qui mettent en place ces réseaux de protection.
Axel Cambron, l'échevin en charge de l'informatique à Jemeppe-sur-Sambre. Des exemples comme ceux-là, ils sont de plus en plus nombreux et paralysent pendant plusieurs jours des activités d'une commune, d'un hôpital ou encore d'un service public. Sommes-nous assez préparés face aux cyberattaques?
C'est la question que nous posons dans Allô le Monde. Vous pouvez poser vos questions, vos interpellations par téléphone au 070 66 55 44 ou par note vocale.
Allô le Monde sur WhatsApp 0471 200 500. 0471 200 500.
Nos invités ce soir pour en parler dans ce studio, Vincent Defresne, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes cofondateur de Enviso et du Cyber Security Challenge Belgium. Enviso, c'est une entreprise qui aide d'autres entreprises à se protéger au niveau de l'informatique. Jérémy Grand-Glaudon, bonsoir. Vous êtes expert senior en cybersécurité à l'Agence du numérique. Et Laurent Mathy, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes ingénieur professeur en système informatique à l'ULIEJ. Alors peut-être pour commencer, Jérémy Grand-Glaudon, une petite réaction à ce qu'on vient d'entendre, à cet échevin, quand on l'entend dire que les pouvoirs locaux sont aussi visés, qu'on n'est pas vraiment assez armé. C'est la réalité, on n'est pas vraiment assez armé.
Alors, on n'est jamais assez prêt. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est une vérité quasiment universelle. On pense l'être, on pense mettre tout en place. Quand ça arrive, c'est très complexe. Donc ça, c'est une réaction qui est tout à fait normale. Par contre, il y a plein d'activités qui se mettent en place, notamment au niveau de la région, pour protéger, pour anticiper, pour donner des clés de réponse, mais aussi des moyens d'intervention.
Qu'est-ce qui s'est passé, là, par exemple, au service public de Wallonie? Parce qu'on a l'impression que là, tout n'est pas encore vraiment remis en place.
Je pense qu'il faut d'abord saluer le travail qui a été fait par tous les agents du SPU Digital. On n'imagine pas qu'on est dedans, mais c'est des jours, des nuits, non-stop, et ils font un travail absolument titanesque. Et donc là, ce qui s'est passé, il y a eu effectivement une tentative d'intrusion, il y a eu des pistes assez sérieuses pour justifier l'intervention, et donc par précaution, les services ont été coupés. C'est une réaction parfaitement normale et plutôt saine. Et donc maintenant, il y a tout le travail de vérification, ce qu'on appelle le forensic, de remise en place. On a eu la chance au niveau de l'agence numérique d'être activée donc par le gouvernement pour regarder notamment l'incident, mais aussi aller plus loin. Penser vraiment stratégie. C'était déjà en cours. Évidemment, vous doutez bien que ça donnait un sacré coup d'accélérateur, et donc c'est une priorité actuelle du gouvernement.
Vincent Defresne, votre entreprise est parfois aussi appelée à la rescousse, même quand il s'agit d'institutions, d'acteurs étatiques, parce que parfois les services ne suffisent pas. Il faut des acteurs privés pour supporter tout ça. Est-ce que il est important de savoir qui a attaqué dans un cas comme celui-là? Est-ce que c'est ça le but principal ou pas vraiment?
Je pense que le premier objectif, c'est de savoir comment ils sont rentrés. Parce que, évidemment, si on doit remonter une informatique, il faut la remonter de façon à ce que le pirate ne puisse pas revenir. Si on refait toute une informatique pour que deux jours plus tard on soit piraté, on recommence à zéro. Et notre intervention, généralement, elle s'articule autour de ça. Comprendre quelle est la source de l'intrusion. Une fois que cela a été fait, dans certains cas, comprendre effectivement qui est impliqué, ça a du sens. Il y a certaines entreprises qui vont même se poser la question de savoir si, en interne, certains ont été complices. Quand on parle, par exemple, de fraude avec des fausses factures, envoyer des fausses adresses e-mail, est-ce que finalement quelqu'un dans l'entreprise était impliqué? C'est une question qui se pose souvent. Dans le même état d'esprit, quand on est la victime d'une attaque externe, comprendre qui nous a attaqués, c'est aussi comprendre les méthodes qui ont été utilisées et éventuellement anticiper d'autres portes qui pourraient avoir été ouvertes et pouvoir les fermer. Donc pour nous, ça a toujours un intérêt de comprendre quel est, par exemple, le groupe de cybercriminels derrière l'attaque, parce que ça conditionne certaines réponses.
Mmh. Mais la première chose, M. Mathy, c'est comment on est entré, parce que c'est là qu'il faut trouver des réponses immédiates et surtout augmenter sa résistance à la menace.
Il faut fermer des failles. Donc il faut comprendre comment on est entré pour pouvoir corriger les failles du système que l'on relance.
Mmh. Et alors, c'est un travail qui est compliqué, qui est plus facile aujourd'hui qu'il ne l'était il y a quelques années. Est-ce qu'on évolue vite et bien dans ce
alors,
domaine ?
Alors, on évolue vers des systèmes de plus en plus complexes, qui sont construits en assemblant des composantes qui sont peut-être développées autre part. Donc, en fait, il n'y a plus personne qui comprend en profondeur le fonctionnement du système. Donc, comprendre les failles devient de plus en plus compliqué.
Mmh. Vincent Dufresne, je vois que vous acquiescez. Plus personne ne comprend. On a quand même l'impression qu'il y a quand même beaucoup d'informaticiens, beaucoup de personnes qui se spécifient
plus
quand même dans ces domaines.
Plus personne ne comprend le système entier. Donc chacun comprend les parties sur lesquelles il travaille, mais l'ensemble, et ce n'est pas que dans l'informatique. Hein. Vous prenez votre voiture, il n'y a pas un ingénieur qui comprend tout ce qui se passe.
Mmh. Alors, c'est quoi le grand défi alors d'aujourd'hui par rapport à la cybersécurité ?
Le grand défi, c'est de considérer, c'est de mettre en place le savoir-faire au moment de la construction et de développement de ces systèmes, mais ça, le problème, c'est que ça requiert une main-d'œuvre qu'en général, on n'a pas.
Aujourd'hui, vous travaillez à l'Université de Liège, il y a peu d'étudiants, d'ingénieurs en informatique, les profils qui sont les plus recherchés ?
Il y a trop peu d'étudiants en informatique en général et en ingénieurs en informatique en particulier.
Mmh. Vincent Defresne, vous avez du mal à recruter, vous, par exemple ?
C'est beaucoup plus facile qu'avant. Quand on a commencé il y a 10 ans, il n'y avait pas de filière de formation en cybersécurité. Aujourd'hui, toutes les hautes écoles quasi proposent des filières de formation en cybersécurité. Pour donner une idée, quand on a lancé le Cyber Security Challenge en 2015, on avait 250 participants. Cette année, on en avait plus de 1000. Donc il y a quand même bien quelque chose qui s'est passé. Mais c'est vrai que comment les besoins grandissent tellement vite, c'est difficile. Maintenant, moi, je suis un grand optimiste. Hein, et je pense, et c'est aussi mon expérience, qu'il est possible quand même de se défendre contre des cyberattaques. La majorité des cyberattaques utilisent des méthodes qui, somme toute, ne sont pas si compliquées. La grande difficulté, c'est que si vous êtes une entreprise qui a 400 serveurs, ces 400 serveurs doivent être tout le temps maintenus à jour. Il faut tout le temps installer les mises à jour. Ça paraît simple comme ça, mais vous installez les mises à jour, un truc qui fonctionnait très bien, tout d'un coup, ne fonctionne plus. Donc c'est beaucoup de travail pour les informaticiens.
Et beaucoup d'investissement pour les entreprises et les institutions concernées.
Tout à fait. Et parfois, quand on se lance dans la digitalisation de son entreprise, on ne se rend pas compte qu'on fait un investissement pas maintenant, mais dans le temps, qui va devoir être maintenu.
Mmh. Jérémy Grand-Cloudon, c'est un des obstacles, le coût précisément de cette mise à jour perpétuelle ?
Oui, le coût, la main-d'œuvre qualifiée, parce qu'effectivement, des nouvelles recrues, on en a de plus en plus, des ingénieurs, des informaticiens qui sont vraiment au point, c'est plus compliqué. Il en faut tout le temps, on en a besoin de plus en plus, les régulations européennes arrivent, on parle NIS 2, on parle DORA, on parle Resilience Act, c'est un nouveau fardeau en plus, et donc il faut la main d'œuvre, il faut la main d'œuvre qualifiée, et il la fallait hier. Donc on travaille à ce niveau-là, on comble au fur et à mesure, et comme on disait, c'est bien connaître son système, bien comprendre ce qu'on fait, et parfois c'est ce qu'on appelle la dette technique, on paye un choix beaucoup plus tard. Mmh. Et ça, personne n'a une boule de cristal, donc il faut être capable d'assumer, et donc d'avoir une défense en couche. C'est-à-dire, quelque chose peut mal se passer, qu'ai-je prévu ? Quelles sont les couches sur lesquelles je peux me reposer ? Mmh. Et jusqu'au moment, on arrive à un moment où il n'y a plus de couches, et là, il y a des services d'urgence, comme le cert.be avec le CCB.
Un auditeur nous parle sur Facebook et il nous dit ceci, c'est Thierry, la question qu'il faut se poser est comment en sommes-nous arrivés là, exposer nos données sans avoir les capacités d'être sécurisés. On a voulu aller trop vite Vincent Defresne ?
Il y a une course à la digitalisation, ça c'est évident, parce que la digitalisation a amené une efficacité. Qui n'aime pas pouvoir prendre rendez-vous chez son médecin sur Internet ? Comme c'est pratique. Il faut comprendre qu'effectivement, à chaque fois qu'on a avancé là-dedans, on a digitalisé des services qui se font, on l'a dit, avec parfois des informaticiens qui... l'informatique, c'est un domaine très vaste, qui ont un certain nombre de compétences, mais qui ne connaissent pas tout, donc c'est le grand défi. Mais je tiens quand même à nouveau revenir sur mon optimisme. Prenons par exemple l'authentification à deux facteurs, c'est le fait qu'un simple mot de passe ne suffit pas pour se connecter. Avec ce type de protection, il y a énormément d'attaques qu'on arrête. Beaucoup d'entreprises ignorent complètement l'existence de cette mesure et en la mettant en œuvre, en la mettant en œuvre de façon systématique, c'est vrai qu'il faut passer deux heures à parler avec son
Mais ce que vous nous dites, c'est qu'il y a des solutions qui existent, mais qui les appliquent. C'est vrai que l'authentification à deux facteurs, moi-même j'en ai déjà entendu parler, mais j'avoue que je n'utilise pas très souvent.
Comme chef d'entreprise, il faut accepter de passer deux heures avec son informaticien pour en parler. C'est pas un réflexe, c'est pas quelque chose qui va sembler naturel. L'avantage, c'est que beaucoup d'entreprises se retournent, connaissent des gens qui ont été piratés, disent « j'ai pas envie que ça m'arrive », et c'est à ce moment-là qu'il faut appeler l'informaticien.
Mais aujourd'hui, la prise de conscience des entreprises, elle est réelle. Est-ce que vous avez l'impression que les entreprises, les institutions sont suffisamment conscientes de la menace, ou il y a encore, à ce niveau-là, des failles dans l'information ?
On avance, mais c'est pas encore gagné. Je vais dans beaucoup de conseils d'administration. Je suis parfois surpris de la désinvolture d'un certain nombre d'administrateurs, qui sont des gens qui ont quand même des responsabilités importantes.
Y compris dans des grandes entreprises ?
Oui, tout à fait, y compris dans les grandes entreprises. Certainement pas des banques qui sont fortement réglementées, par exemple, mais dans le secteur industriel, par exemple, il y a un manque total de prise de conscience encore. Et même s'il y a une prise de conscience, finalement, c'est un problème que l'informatique règle. Et donc, ça n'a pas sa place dans un comité de direction.
Jérémy Grand-Clodon, sur ce point, sur l'information aujourd'hui, il y a encore des gens qui passent à côté, qui n'ont pas pris conscience de la menace qui pesait ?
Oui, effectivement. Ça devient de plus en plus rare. Il y a quelques années, c'était encore une discussion, parfois un dialogue de sourds. On arrivait en exposant un problème que les personnes ne concevaient pas. Donc il n'y avait même pas de dialogue possible, on était vraiment à deux étages. Maintenant, on voit que ça se ramène tout doux au niveau des discussions, on commence vraiment à pouvoir échanger. Et on est plutôt au niveau qu'est-ce que je fais, comment je fais, est-ce que c'est pas trop tard ? Donc c'est jamais trop tard, effectivement. Et il y a la solution des 80-20, donc des mesures qui sont relativement simples, comme le MFA, qui permet de combler déjà une grande partie des attaques. Donc, le dialogue s'installe à tous les niveaux, y compris pour les institutions. C'était déjà le cas, mais c'est des monolithes, c'est des grandes institutions à bouger.
Alors, il faut savoir peut-être distinguer cybermalveillance et cyberguerre, parce que quand on parle de cyberattaque, on pense à cette cyberguerre, notamment avec l'actualité. Cette cyberguerre, elle ne fait qu'augmenter, donc c'est vraiment des états-nations à motif géopolitique. Vincent Defresne, vous revenez d'une semaine aux États-Unis, si je ne me trompe pas. Vous avez pu constater justement les états qui étaient avancés dans cette cyberguerre.
Oui, sans surprise, on va parler de la Russie et de la Chine. Alors, ne nous faisons pas d'illusions, les États-Unis sont probablement tout aussi avancés, mais comme c'était aux États-Unis, ils ont surtout parlé de la Chine, de la Russie. Mais en fait, ils ont surtout parlé de la Chine. Les États-Unis, aujourd'hui, sont obsédés par la Chine, très inquiets par la Chine, et à raison, parce qu'ils sont attaqués par la Chine. La Russie attaque finalement les États-Unis assez peu par rapport à la Chine. Ce qui est intéressant, c'est que l'attaque, elle est à tous les niveaux. Vol de propriété intellectuelle, ce pillage, on y assiste aussi en Europe, il faut se faire aucune illusion. Nous travaillons régulièrement sur des cas d'entreprises qui commercent avec la Chine et où leurs concurrents sont en train de leur voler leur propriété intellectuelle. Et résultat, dans quelques années, ils auront perdu leur avantage concurrentiel. C'est des risques de faillite, quoi. Mais c'est aussi l'espionnage, comme en géopolitique, à des fins donc de renseignement et bien entendu le sabotage, qui fait froid dans le dos.
Alors, est-ce que la Belgique pourrait être une cible privilégiée en étant la capitale de l'Europe avec l'OTAN ?
De toute façon, la Belgique, c'est un pays d'Europe occidentale, donc à ce titre, elle est tout à fait une cible. En dehors même du fait qu'elle héberge l'Union européenne, l'OTAN, etc.
Il y a les institutions, il y a évidemment les infrastructures stratégiques comme le port d'Anvers, on le mentionne souvent. Il y a aussi des institutions bancaires telles SWIFT ou autres qui sont des cibles privilégiées pour les cyberattaques. C'est vrai qu'on fait souvent la distinction entre guerre hybride, attaque étatique et puis des attaques malveillantes pour obtenir une rançon ou ce genre de choses. Parfois c'est quand même assez lié, cela dit, parce que un pays comme la Russie peut utiliser des petites frappes qui sont sur le dark web et qui peuvent mener des actions au nom de l'institution, des services de renseignement russes, par exemple, Laurent Matti.
Oui, tout à fait. Et moi, je dirais que la différence entre ces différents acteurs, c'est le but des attaques. Alors, il y a évidemment tout ce qui est un petit peu cyberterrorisme. On va perturber, on va juste créer des problèmes. C'est un peu opportuniste. Et alors, il y a sur l'autre bout de l'échelle, c'est les attaques ciblées contre les infrastructures d'énergie, par exemple, ou les infrastructures logistiques, où là, on crée vraiment de gros problèmes sociétaux. qui vraiment peuvent avoir des conséquences pendant très longtemps.
Déstabilisation, quoi.
De la déstabilisation, tout à fait.
On pense par exemple aux éoliennes. On a vu des cas comme ceux-là ou à des centres logistiques. Si on est entrepreneur aujourd'hui ou qu'on dirige une institution, quelles sont les bonnes questions qu'on doit se poser Jérémy Grand-Claudon, je vous laisse répondre.
Là, on a les étapes de base. J'ai envie de dire que ça s'applique pour n'importe quoi. C'est qu'est-ce qui est important pour nous? Est-ce que j'ai bien conscience de tout ce que je possède, qu'on appelle les actifs, donc du logiciel ou du matériel? Est-ce que j'ai bien mis les choses en place et je suis capable de le soutenir? Et est-ce que j'ai des plans pour continuer mes activités, malgré les attaques? Ou comment redémarrer? C'est un peu cette idée-là. C'est, je vois, je connais, je sais répondre, je sais encaisser. Mmh. C'est exactement ce qu'on est occupé à mettre en place, maintenant en vitesse accélérée, au niveau de la région Wallonne aussi. Mmh. Et que le CCB, donc ici, au niveau fédéral, fait déjà. Donc ça, c'est vraiment des points qui sont en cours.
Le CCB, le Centre fédéral pour la cybersécurité, qui est évidemment un pion central dans cette question de la cybersécurité.
La bonne nouvelle, c'est que si vous êtes entrepreneur et que vous voulez agir, il y a sur Internet des tas de guides très bien faits du CCB, de la région Wallonne, qui permettent très très vite de se poser les bonnes questions et d'après avoir une discussion, comme je disais, de 2 heures avec son informaticien ou cette institution structurée. Donc c'est formidable, en fait, il y a tous les moyens pour agir, il faut juste s'arrêter de le faire.
Mais est-ce que c'est pas un peu décourageant? Parce que quand on voit l'inventivité des cybercriminels, on peut être protégé pendant un mois ou deux et puis se faire attaquer par un autre acteur, un autre type d'attaque.
Le problème, c'est que la cybersécurité est un champ extrêmement large. Et donc, il n'y a pas d'experts en cybersécurité. Il y a des experts en sous-domaines de la cybersécurité. Et ce qui est très difficile, c'est que pour sécuriser le mieux possible un système, il faudrait idéalement chacun de ces experts. Et on ne les a pas toujours. Par contre, l'adversaire, lui, va avoir des experts. Et puis, ces experts vont créer des outils d'attaque et vont même peut-être les distribuer.
Attends, l'indécrottable optimiste que je suis citera une étude très récente de la région flamande. Ils ont interrogé des milliers d'entreprises en Flandre et leur conclusion, c'est que la moitié des entreprises flamandes a été ciblée par une cyberattaque. Mais sur la moitié des entreprises ciblées, il y en a 1 sur 10 seulement qui est tombée dans les mailles du filet des attaques des pirates. Ce qui veut dire que 9 sur 10 ont réussi à se défendre.
Et c'est pareil en Wallonie ?
C'est plus ou moins pareil. Je crois que le point vraiment important, c'est de dire qu'on doit être capable de résister à ce qu'on appelle aux script kiddies. C'est un terme que j'aime bien. Donc, ça rend des attaques de base. C'est des outils automatisés, ça rend une liste d'adresses et ça attaque à tout va. Ces attaques-là, je pense qu'en Belgique, n'importe quelle entreprise, institution doit être capable d'y répondre. Et comme on disait, c'est 2 heures de discussion, quelques mesures relativement peu coûteuses. Après, plus on va monter le niveau, plus ça va coûter cher. Là, il y a vraiment une étude de coûts et de cas à faire. Est-ce que ça vaut la peine ? Risque zéro n'existe pas. 1, c'est une illusion. 2, c'est hors de prix. Et donc là, il faut se dire quel est mon niveau, quel est mon niveau de danger, comment est-ce que j'atteins un niveau de risque suffisant en me disant ça va, ça je peux encaisser. Mm-hmm. Et c'est la vraie question, c'est la seule en fait au final.
Mm-hmm. Par rapport à tous ces grands enjeux de société, la question est souvent la même et sera la dernière. Est-ce qu'on est souvent suffisamment éduqué, Laurent Mathy, par rapport à ça? Est-ce qu'il ne faudrait pas davantage de formation, même pour les plus jeunes, sur toutes ces questions liées à la sécurité informatique dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui?
Alors, on n'est peut-être jamais suffisamment éduqué, même si notre niveau d'éducation est très élevé. Je crois que le problème est plutôt dans la mise en œuvre de cette éducation. Est-ce qu'on a l'argent? Est-ce qu'on a le temps? Est-ce qu'on a les compétences? Est-ce qu'on a la main-d'œuvre? Et c'est là que très souvent, on prend un peu des raccourcis. Tout simplement parce qu'on n'a pas les ingénieurs, tout simplement parce que...
Vous insistez sur cette question de la main-d'œuvre. Ceux qui nous écoutent, sachez qu'il y a du boulot dans ce domaine. Nos 3 invités confirment.
Et parce que, on déploie des systèmes qui ne sont peut-être pas construits de manière idéale non plus.
Merci beaucoup d'avoir été tous les 3 ce soir dans Allô le Monde, question sur la cybersécurité.